À bout de souffle. Lors de l'édition 2008 du festival Rayon Frais à Tours, nous avons découvert la proposition chorégraphique de Raphaël Dupin. 10e minute, corner. Partition chorégraphique pour un joueur, un mur et un ballon. Avec cette performance, Raphaël Dupin convoque la mémoire d'un corps sportif sur le terrain de la danse. Seul, sur un espace représentant un demi-terrain de foot, un match a lieu. Corner, coup franc, penalty, accélération, désaccélération, dribble, contrôle. Chaque geste trouve sa juste puissance en contact constant avec un environnement, coéquipier, supporter, qui prend forme sous nos yeux sans jamais avoir besoin de le représenter. Séduit par ce solo, travaillant le geste dans sa précision et sa répétition, interrogeant les frontières entre danse et performance sportive, nous avons improvisé un entretien à l'issue de la représentation avec Raphaël Dupin. C'est au bord de l'espace scénique, en extérieur, en plein démontage, que nous ouvrons la discussion.
Au début, le public est installé dans les marches. Puis nous voyons l'espace qui est une aire de jeu, qui ressemble à un mini-espace de foot. Espace cadré, délimité, avec ses règles.
Ouais, complètement. Bah, c'est un terrain de foot au 1 dixième, en fait. C'est exactement les mêmes dimensions qu'un terrain de foot. Voilà. Sauf que c'est plus petit d'un dixième.
Et donc, le joueur numéro 7 descend les marches et pour rentrer dans cette aire de jeu qui va devenir au fur et à mesure une sorte d'arène. Donc, un spectacle qui semble se jouer entre le désir du jeu et la machine effroyable du sport, où le corps va être au fur et à mesure soumis à une sorte de tension ou va être soumis à une exigence où on lui en demandera toujours plus, jusqu'à temps qu'épuisé, il se retire dans les coulisses, oublié des caméras et du public.
Thank you. Le spectacle s'appelle 10e minute corner. Mm-hmm. Alors c'est un solo.
Ouais, complètement, ouais.
Un spectacle de danse.
De danse, ouais.
Et dansé par Raphaël Dupin.
Complètement, ouais, c'est moi.
Qui auparavant dansait, je crois, à savoir, pour la compagnie Marouchka.
Oui, j'ai dansé avec Francis Plisson, donc compagnie Marouchka, sur Freya, sur le cycle Freya, Freya en chantier. Et puis après, j'ai continué mon parcours avec les Frères Benaïm, qui est une compagnie sur Paris. Et puis actuellement avec Nathalie Pernette, qui est une chorégraphe de Besançon. Voilà.
Est-ce que c'est là un premier solo ?
Pour moi, c'est un premier solo. J'ai fait d'autres petites formes avant dans ma formation de danseur, mais là, je dirais que c'est un premier solo un peu majeur, un peu important pour moi, en tout cas, dans sa construction, dans sa réflexion et dans sa monstration, on va dire.
Alors, effectivement, Amandine avait raison de poser le cadre, cette aire de jeu, ce terrain de foot, un demi-terrain de foot, parce qu'il manque, on va dire, la partie de l'adversaire, le but d'en face.
Exact.
Coupé par un mur. Mm-hmm. Un joueur de foot à qui il manque son équipe.
Complètement.
Et ses adversaires.
Oui.
Pourquoi aller vers le foot ? Qu'est-ce qui a donné envie d'aller vers ce qui se joue dans le foot, comme mouvement, comme danse ?
Je dirais que c'est assez instinctif de par mon parcours, parce que c'est vrai que j'ai commencé très petit à faire du foot, parce que je viens de la campagne et forcément comme activité majeure c'est le football. Donc j'ai fait, on va dire, 10 ans de football avec un sport études et puis j'ai joué à un niveau assez respectable de DH, plus au niveau régional. Et puis après, à un moment donné, j'ai tout arrêté, j'ai fait de la danse. Et puis j'ai lâché complètement le foot et je suis devenu danseur. Et c'est vrai qu'instinctivement, j'avais besoin de croiser en tout cas ces deux disciplines, comme reconvier la mémoire, je sais pas, tous ces gestes appris de façon assidue au football, dans des séances de d'entraînement infinies. Et puis la danse, où c'est pareil, on répète des gestes de façon infinie. J'avais envie de voir comment ça pouvait un peu s'entrechoquer, quoi.
Alors justement, on est bien dans la répétition, ouais, sur ce spectacle, et effectivement dans le geste, dans le savoir-faire du footballeur.
Exactement.
Et c'est un peu ça qu'on est, convié à assister, à voir ce savoir-faire, ce geste, autrement que par le prisme habituel de la caméra et du regard du spectateur par la télévision.
Ouais, complètement.
Il se joue quelque chose d'assez étrange pour nous, spectateurs, c'est ce rapport avec l'absence ou le manque des autres coéquipiers, le manque d'un morceau du terrain. Et comment s'est joué le désir d'aller vers travailler la question du football, du sport collectif, et mais le travailler dans un solo.
Je crois que c'était juste dans cette solitude du geste, dans cette solitude de la technicité du footballeur comme du danseur. C'est-à-dire comment on est seul face à notre propre technique et comment on y va, on répète pour obtenir finalement l'optimum de sa technique. Et je crois que c'est très personnel, c'est très solitaire. C'est pour ça que moi j'avais envie dans ce solo d'être vraiment là-dedans. C'est comment moi, face à un mur, face à cette chose-là, face à moi, urbain en plus, de m'implanter là, de dérouler mon tapis et d'être face à ma propre technique, à ma propre gestuelle, et de jouer avec ça, et de jouer avec ça, et de reconvier ma mémoire de footballeur, en même temps d'être aussi dans ma mémoire de danseur, et comment je peux dialoguer, mais vraiment de façon solitaire.
Thank you. Il y a également quelque chose qui est présent tout au long de cette performance, qui est le rebond. Dans un premier temps, on a le joueur qui tire la balle, cette balle rebondit sur le mur, elle revient au corps. Donc celui qui tire et celui qui reçoit n'est pas le même. C'est évidemment le même, mais c'est pas le même corps qui tire et c'est pas le même corps qui reçoit. Et sans cesse, on est dans ce rebond. Jusqu'à un moment donné, est-ce que le rebond du ballon devient des rebonds des balles? Comment on passe du ballon, du foot, aux balles, qui sont des balles de tennis, mais qui peuvent aussi être des balles comme des balles d'un revolver, comme si à un moment donné, on devenait la cible de quelque chose.
Oui. Alors, c'est vrai que moi, dans la construction de ce solo, j'avais envie que la première partie, en tout cas, soit complètement maîtrisée par le danseur-footballeur. C'est-à-dire qu'il gère le rebond, il gère la frappe, elle lui revient, il est toujours face à, et il le maîtrise complètement. Il domine en tout cas son sujet, il domine ce ballon, ce mur, ce rebond. Et que petit à petit, il y a de l'environnemental qui commence à exploser en tout cas. La trajectoire du joueur est toujours la même, il essaie toujours d'être au plus proche de sa maîtrise et de sa technicité. Mais quand même, des événements extérieurs comme les balles de tennis, les fumigènes, l'arroseur automatique, qui vient perturber en tout cas sa trajectoire. Tout en essayant de maintenir sa maîtrise jusqu'à l'abandon en fait, de la dernière partie, où là, il y a une espèce d'angoisse du gardien de but avant le pénalty. On est vraiment dans une grande solitude.
Et ce qui est intéressant aussi par rapport à la danse et au football, comment les deux vont se rejoindre, c'est que dans cet espace-là, le corps du danseur va être soumis donc à cet espace, à son corps, et il va y avoir ce tiers qui est le ballon. Et en fait, ça va être vraiment un corps qui va se confronter à la puissance du ballon. Mmh. Il y a l'espace, mais en plus de l'espace, dans la danse contemporaine,
l'espace, en fait, on traverse. En tout cas, on travaille l'espace.
Il y a non pas un autre danseur, mais un objet qui vient avec une puissance de gravité différente, qui tombe sur des surfaces où ça peut être aléatoire, parce que le mur n'est pas lisse. Donc il y a toujours une perturbation avec une menace, une puissance qui peut revenir et blesser, puisque pendant tout le spectacle, ça mitraille, ça projette, ça fait glisser, ça blesse, c'est des contacts et des impacts à gérer continuellement.
Ouais, je dirais que je trouve ça intéressant dans la réactivité, dans l'aléatoire en tout cas que ça peut procurer sur le corps, parce que ça modifie forcément la texture des corps, soit c'est le corps qui va capturer ce ballon, ou est-ce que c'est le corps qui le reçoit et du coup qui subit le choc du ballon. Enfin, je trouve que ça donne une palette en tout cas d'état de corps et de choses à voir en tout cas dans l'état de corps, pour le spectateur je pense en tout cas. Mais c'est vrai que j'aime bien ce côté en tout cas qui donne de l'aléatoire, parce que forcément il faut toujours être toujours en éveil, toujours en activité, en hyperactivité, parce que ce ballon est toujours un adversaire aléatoire.
Alors si celui qu'on regarde, c'est le porteur de ballon, c'est celui qui dribble, qui tire, qui réceptionne, qui envoie, donc on parlait, c'est le geste du footballeur, en définitive son mouvement, son contact avec la balle, sa danse, mais c'est aussi son exposition et sa mise en danger,
oui.
Sa condition.
Mais oui.
Parce que là, il y a une mise en danger réelle, physique, sur ce spectacle, qui est également une surenchère, qui semble être, pour nous spectateurs, comme une surenchère de notre regard. À nous, spectateurs, en demander toujours plus dans la performance.
Mmh. La question de l'arène aussi.
Oui, c'est ça.
Avec
c'est vrai.
Le public qui va lever le pouce ou baisser le pouce, du lynchage.
Ouais.
Est-ce que en danse, on peut retrouver ce croisement entre la danse et le foot? Est-ce que finalement en danse, et je pense à un spectacle d'Olivier Dubois pour Tout l'or du monde, ou est-ce qu'en danse, il n'y a pas aussi cette surenchère, cette toujours plus, au-delà du corps, dans son dépassement, dans la performance?
Oui, ça c'est évident, je pense. Pas dans toutes les formes, pas dans toutes les pièces de danse, mais il y a ce besoin, chez certains chorégraphes en tout cas, d'être dans le toujours plus, dans donner, dans la mise en danger du corps. Je pense que chez Van de Kibus, par exemple, c'est assez flagrant, cette hyperactivité, ces chutes à répétition, ce volontarisme d'aller jusqu'à l'extrême des possibles physiques, en tout cas, et cette vraie mise en danger des corps. Là, je pense pas que je suis vraiment là-dedans, il n'y a pas une physicalité incroyable. Je pense que la mise en danger, elle est par l'environnement, tous les phénomènes indirect que peut subir ce joueur-là, et qui est toujours en tout cas à lutter sans forcément se laisser abandonner. Donc c'est vrai qu'on est dans la notion d'arène parce que on subit, mais en même temps on tient le cap, quoi. Et les affronts, elles arrivent, elles se superposent, mais le corps répond en tout cas. J'avais envie vraiment que le corps réponde de façon très, très active jusqu'à un certain lâcher-prise. Mais que le danseur-joueur décide à quel moment il arrête. Et c'est vrai qu'avec ces balles de tennis, qui sont des balles de tennis parce que c'est une symbolique de projectiles, de balles, on ne sait pas trop. Mais là, c'est le commencement du lâcher-prise, en tout cas.
On a un grand moment de liberté sur ce spectacle du danseur-footballeur, qui est, on va dire, la scène du milieu, parce qu'on peut dire qu'il y a trois parties dans ce spectacle. La scène où à un moment donné le ballon disparaît et on a une suite de mouvements enchaînés, et là on a un moment de liberté complète,
jubilatoire
du footballeur danseur.
Complètement.
Oui, c'est une sorte de jouissance du geste footballistique, la reprise de volée, comment ça s'enchaîne, où est-ce qu'on... C'est vraiment cette espèce de brésilianité, je sais pas quoi, du football, j'en sais rien, mais en tout cas, il y a le pur amour du ballon, ou de la danse, en tout cas. Enfin, il y a ce plaisir-là. J'avais envie vraiment que ce soit un plaisir du geste. Alors après, forcément, j'ai travaillé sur une gestuelle un peu footballistique, essayer de la mettre en mouvement, danser, mais j'avais envie d'une certaine joie, jouissance en tout cas, d'exécuter ça. C'est vrai que la musique rock au-dessus, pour augmenter, pour donner un côté festif, jubilatoire.
C'est l'idée de la dépense et de la mise, puisqu'à un moment donné, on a de la publicité.
Ouais.
Publicité qui rappelle les sponsors, ou les sponsors misent sur une personne.
Et qui fait la relance.
Ça, c'est une règle. C'est vrai que je me suis dit, pourquoi mettre ça? Et en même temps, c'est vrai que quand j'ai regardé forcément les matchs de Coupe d'Europe, et c'est vrai que forcément, entre la mi-temps, t'es matraqué par de la pub, mais c'est vraiment terrifiant. Terrifiant de matraquage. Donc, je me suis dit, ouais, si, il faut le faire aussi, parce que... souligner un peu une bêtise en tout cas, mais qui est très réaliste.
Et c'est aussi là sur le spectacle quelque chose qui va relancer le corps dans l'action.
Complètement, c'est une pause mais qui relance. Et c'est vrai que cette période-là, c'est quand même aussi, tu disais tout à l'heure, une espèce de surénergie quoi. Il faut aller jusqu'au bout.
Ouais.
Donc de jamais lâcher prise, même si c'est très haché dans la bande musicale, mais en tout cas c'est une espèce de donation physique où à la fin on est forcément essoufflé ou en tout cas on a tout donné. Mais ce qui est pas loin du foot ou de la danse, à un moment donné, il faut tout donner.
Résiste, doit résister à la propulsion de la balle, du ballon, et en même temps sa résistance et c'est sa capacité de dépassement. C'est ce qui le met dans une puissance où il se dépasse lui-même.
Bien sûr.
Et ça, c'est assez étonnant de s'apercevoir que finalement, c'est dans au moment où il y a une résistance du corps à quelque chose qui lui arrive.
Qui est une surenchère.
Qui est une surenchère.
Sûr. Ouais. Ouais. Oui, c'est je pense, c'est dans le toujours plus. Et c'est vrai que cette résistance, en tout cas, de recevoir une balle qui est super violente, donc on résiste à l'impact. Et en même temps, ça nous donne une espèce de jouissance d'aller de taper encore plus fort.
Une force insurrectionnelle.
En tout cas, de dire on y retourne, on remet encore du ballon, on remet encore de la frappe, et on voit ce qui se passe. Alors que c'est vrai que s'il y a une frappe qui est un peu moins forte, le corps est moins choqué, on a tendance un peu à mettre le corps en dessous, à baisser le niveau de jeu.
Dans l'économie.
Ouais. Parce que là, il y a un truc où... on a besoin de cette surenchère, ouais. Surenchère du geste aussi, surenchère de, je dirais presque, de la virtuosité du geste, quoi.
Ce que je trouve aussi intéressant dans le rapport entre danse et football, c'est que dans ce spectacle, on voit que c'est toute une économie du corps qui est mise au service de la dépense. Donc un corps qui est totalement engagé, comme on avait pu dire. Et cet engagement du corps semble aller toujours vers une extériorité et non pas vers une intériorité. C'est-à-dire qu'en danse contemporaine, il y a certains spectacles où on cherche toujours à descendre, alors que là on est toujours dans la projection hors de soi et avec chaque mouvement semble se diriger vers un but aussi. C'est-à-dire que ça semble à chaque fois partir du pied et remonter jusqu'au visage. Puis le regard qui va suivre la balle et on est dans cette tension qui sort du corps pour aller avec la balle et faire un avec cet objet qui est multiple, qui est à la fois dangereux et celui qui permet d'aller là où il faut aller.
Ouais complètement, mais je crois que ça c'est ce rapport au mur, au ballon, à cet environnement, c'est que c'est à la fois un adversaire qui est absent, c'est à la fois des coéquipiers qui sont absents, mais il y a forcément une extériorité à trouver, d'aller trouver les copains de jeu en tout cas.
Voilà.
Donc forcément ça part de ce que tu dis, du pied ça remonte. Je pense pas que sur un truc comme ça on puisse être très très intérieur. Parce que forcément, le ballon, il faut le suivre. Il faut savoir où il est. Et le mur, c'est pareil. Il y a toujours un contact à garder. Donc forcément, il y a une ouverture totale. Ça aussi, c'est par rapport à... Moi, sur ce spectacle-là, reconvoquer mes mémoires de terrain de foot où on n'est jamais à l'intérieur de soi. On est toujours avec ce qui se passe autour, en tout cas. Et c'est vrai que par rapport à la danse, où on travaille sur l'espace, on travaille sur le 360, en tout cas sur l'ouverture du regard, je trouvais que ça, c'était intéressant. Parce que sur cette pièce-là, forcément, on est obligatoirement à 360, à l'ouverture totale, parce que y a plein de projectiles, en fait. Il y a plein d'adversaires, il y a plein d'amis aussi. Enfin, tout est multiple, même si on ne les voit pas physiquement.
Oui, parce qu'ils sont les rebonds de la balle témoignent de leur présence.
Oui, complètement. Et on est obligé d'en faire fi, enfin, on est obligé d'être là. Sauf à la fin. Donc, du coup, là, dans cette espèce d'errance, d'angoisse, là il y a du possible retour à l'intérieur, mais qui sont très oups, c'est juste on se barre et on revient parce que ce qui se passe c'est autour, donc c'est des va-et-vient incessants entre soi et ce qui se passe sur le terrain.
Mais c'est vrai que dans tous les ralentis on le ressent vraiment, quoi, quand le mouvement part du pied remonte à la tête. Mais quand la réalisation s'est produite, c'est un retour qui repasse des yeux et qui redescend ça. Avec...
Ouais, parce que c'est sans cesse de la remontée, de la projection, mais après je reviens en moi parce que forcément, qu'est-ce que je vais faire après? Du coup, il y a toujours cette mémoire du ballon, même si on ne le voit pas. C'est vrai que dans toute la phase du ralenti, c'est un jeu sans ballon incroyable. Mm. Je ne l'ai pas au pied, mais en même temps, il est toujours là. Et puis, à qui je m'adresse quand j'envoie le ballon. Donc du coup, ça part, ça revient, c'est un jeu. Ouais,
c'est du
reverse, du feedback incroyable.
Et c'est vraiment un moment, ce moment de ralenti et ensuite les moments d'action, le show proprement dit, c'est aussi un moment où finalement il n'y a plus de ballon, mais il est sans cesse là, parce que le footballeur danseur est en contact permanent avec ses coéquipiers. C'est un moment où il y a le toucher permanent. Alors que, par exemple, au début du spectacle, on est sur deux temps. C'est du temps différé. Le rebond fait qu'on est sur deux temps. Il y a de temps en temps des contacts avec les coéquipiers. Et dans le moment où le ballon disparaît, c'est mon anti, le contact est permanent. Le toucher avec l'autre, il est permanent. Et c'est ce qui donne sa puissance, sa liberté, là, ce moment-là. Une des forces poétiques de ce spectacle, c'est vraiment cette danse avec tous ces coéquipiers qui ne sont pas là, quoi. Et ces touchés qui se font avec ces danseurs footballeurs absents.
Oui, complètement. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment de reconvoquer un petit peu cette mémoire que j'ai expérimenté pendant 10 ans de football. Et ça, on efface tout, les adversaires, les copains, les machins, et on se retrouve seul. Mais en même temps, on essaie d'être toujours en contact par la mémoire, par la sensation, par la physicalité, par le corps, par les odeurs. C'est pour ça qu'il y a les barbecues, il y a les fumigènes. Qu'est-ce qui fait un environnement de stade
que les, j'ai, bières
que
aussi.
J'ai, ouais, les bières que j'ai éprouvées, que j'ai intégrées au plus profond de moi. Comment un peu je peux les reconvier, mais seul. Vraiment la première trame de travail de ce truc-là, c'est vraiment comment je reprends possession, ou je les modifie, mais toutes ces imprégnations profondes en moi, je pense, le footballeur, quoi, tout simplement. Et après, comment moi, avec mon parcours de danseur, maintenant, je peux y trouver, je sais pas, une dimension poétique, ou j'en sais rien, quoi que ce soit, mais en tout cas, comment je me les approprie, et comment je peux les mettre en scène, en tout cas, ou les chorégraphier.
Et le... D'emblée, ce spectacle-là, il paraissait évident qu'il serait un spectacle de rue.
Non, pas du tout. Pas du tout. C'est Laurent Barret qui a vu une première proposition, un balbutiement au Volapük chez Alexis Armingol, qui m'avait demandé de faire une présentation en improvisation, bref. Donc j'avais préparé, on va dire, une esquisse un peu de cette chose-là. Et Laurent Barret, en le voyant, m'a demandé de le faire pour Rayon Frais. Sachant que Rayon Frais, c'est un festival en extérieur, j'ai un peu orienté la création pour l'extérieur. Donc c'est pour ça que je me permets un peu de l'arrosage automatique, des fumigènes, parce que je sais que c'est des choses qui ne seraient pas possibles, en tout cas, dans une forme scénique ou plateau. Donc c'est vrai que ça, c'est vraiment une création pour le rayon frais, pour l'extérieur à rayon frais, mais que j'envisage éventuellement, si je dois tourner en salle, de faire une recréation pour la salle.
Oui, parce que toutes ces petites machines sont vraiment intéressantes, puisque la question du solo aussi, c'est-à-dire que le fait qu'on descende les marches, vraiment, ça rappelle les dieux du stade,
un peu.
Il y a la question des dieux du stade, et le fait que ce soit que le numéro 7 qui arrive et qui va danser toutes ces solitudes sur scène, il y a vraiment un aspect, la poétique de la solitude, une petite chose qui arrive. Alors que la personne, alors que le sportif est toujours porté au souci de la performance, c'est-à-dire qu'il lutte aussi beaucoup contre les petites machines, les petits chronomètres, les petits jeux de balles. Toujours un rapport.
Et d'aller plus vite que la balle. Ce moment où la balle disparaît, c'est aussi comme quelque chose où, à un moment donné, le mouvement, la danse va plus vite que la balle.
Oui, ouais, complètement.
Comment dans votre parcours de danseur, votre expérience de footballeur, elle travaillait est-ce que ça a joué sur les formes de danse que vous avez expérimentées?
Ouais, je crois. Je crois que cette grosse sportivité qui était en moi m'a amené à plus d'endurance, en tout cas, à une certaine forme d'acharnement dans la danse. Avec une physicalité un peu forte, plus qu'une technique danse, entre guillemets. Donc c'est vrai que moi j'ai commencé la danse très très tard, j'avais 22 ans, et pas de conservatoire, pas du tout de danse classique, donc c'est vrai que je suis rentré tout de suite d'emblée dans la danse contemporaine, et c'est vrai que mon parcours de sportif m'a amené vraiment vers une danse, je dirais, avec une technique propre, une psychomotricité un peu instinctive de footeux, qui fait que j'ai une danse assez qui m'appartient, je pense, vraiment, du coup, qui est très personnelle, qui ressemble à aucune autre, et qui est vraiment sur l'endurance, sur l'acharnement, sur qu'on développe vraiment dans ce milieu du foot.
Et sur le contact.
Et sur le contact, ouais, sur l'engagement, en tout cas. Et sur la physicalité, beaucoup. Pas la peur de chuter, la peur d'y aller, le rapport au sol, que j'aime beaucoup. Toutes ces choses-là, je pense que c'est des choses qui ont été invectivées par le foot.
Dans le... Est-ce que les sportifs ont une conscience, ou en tout cas, oui, une conscience, une représentation, se font une idée de le fait que leur sport, ou en tout cas les gestes du sport, les gestes du foot, communiquent avec l'univers ou le monde de la danse. Ont
non,
à voir avec
pas.
La danse.
Non, je crois pas. Non, parce que dans le foot, on est sur du résultat. Il n'y a pas à faire le plus beau geste du monde. Ce qu'il faut, c'est marquer des buts et remporter la victoire. Donc je pense qu'on n'a pas cette conscience. On n'a pas cette conscience de l'esthétique, de l'esthétisme du geste. On a la conscience de la rentabilité du geste. Même si notre geste est très précis, très pur dans sa forme, c'est pour que le copain à côté marque le but. Donc on n'a pas cette hyper-représentation nous-mêmes, ou en tout cas cet esthétisme de notre football, quoi. Même s'il y a des joueurs qui se démarquent parce qu'ils ont une certaine façon de danser. On pourrait parler de Zidane, par exemple. Mais on ne l'a pas en nous, ça, en tout cas. C'est pas une démarche, en tout cas, qu'on travaille à entraînement, par exemple. C'est de la productivité, de l'efficacité.
Et justement, ce spectacle vient ouvrir sur l'incalculable du geste du sportif.
Ouais.
Il vient l'ouvrir.
C'est vrai qu'on a l'impression que les plus grands footballeurs sont dans ce que tu dis, l'utilité, en tout cas, du geste, pour une rentabilité immédiate. Or que le danseur, il a un geste efficace, mais qui est sur une autre, une donnée artistique, entre guillemets. Donc c'est vrai que je suis arrivé où les sportifs ne seront jamais des artistes, et que les danseurs peuvent être des sportifs de très haut niveau, mais on peut, en tout cas, à un moment donné, leur dire qu'ils ont une dimension artistique, parce qu'ils sont en train de revisiter le quotidien du monde, en tout cas, par leur discipline.
Alors, on enregistre là cet entretien sur le lieu même du spectacle. Il vient de se terminer, le décor est en train d'être démonté. On est sur les marches du Vinci, un endroit vraiment adapté pour ce spectacle. Hein. C'est assez impressionnant, surtout avec le couloir de sortie.
C'est un très beau lieu. Ouais.
Et du coup, on entend différents sons, les sons du démontage et la bande-son du spectacle. Elle est aussi très très importante. Il y a un travail, c'est à mon tour, il y a un travail sonore qui est réalisé, qui est assez intéressant. Comment s'est jouée cette recherche du travail sonore ?
J'ai travaillé avec Stéphane Charras pour la bande sonore. Moi, j'avais envie, normalement, sur l'idée première, c'était de reprendre le mur et de sonoriser le mur pour... Moi, j'avais envie de déflagration, en tout cas quelque chose qui sur les premiers instants monte en tension et qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer, et que sur la première frappe de balle qui est hyper précise, hyper calculée, qui revient pile poil dans les bras du joueur, qui est cette détonation comme un choc, en tout cas, qui fasse réagir le public.
Un impact.
C'est vrai qu'ici c'est moins évident, cette notion d'impact, parce que le mur est difficile à travailler, et puis c'est vrai qu'au fur et à mesure du travail, l'impact est devenu moins important. Mais dans les premières intentions, j'avais envie d'impact, j'avais envie de choses un peu fortes. Donc c'est comme ça qu'est née un peu ces espèces de choses un peu régulières qui reviennent musicalement d'impact.
Notamment sur la première partie.
Voilà, sur la première partie, ouais. Et puis après, sur le ralenti, c'est un travail de focus sur des petits moments qu'on voit pas quand on regarde un match de foot à la télé. on ne voit pas toutes ces tronches, on ne voit pas toutes ces gueules, tous ces gestes au ralenti. Enfin, elle nous passe devant parce qu'on suit l'action. Et du coup, j'avais envie d'un peu les souligner, de les montrer. Cette vie, en tout cas, ces choses qu'on ne voit pas, qui sont invisibles. Et j'avais envie, justement, d'enlever tout ça avec une musique un peu lyrique.
Oui.
Un peu qui va dans le même sens. Avec
un cœur, oui.
Ouais, un cœur, parce que ça respire, parce que ça vit, parce qu'il y a des regards, parce qu'il y a de la grimace, parce qu'il y a de la douleur, parce qu'il y a de la joie. Enfin, du coup, j'avais envie de que ce soit lyrique.
Dixième minute corner. Partition chorégraphique de Raphaël Dupin pour un joueur, un mur et un ballon. Musique, Christian Fenez. Bande sonore du spectacle, Stéphane Charras. Contact, à propos. Structure mutualisée pour l'accompagnement et la production artistique. À propos.remy@9.fr. Générique, Fred Fritz. À bout de souffle. www.audioblog.arteradio.com/a-bout-2-souffle.